Il y a deux types qui restent là-bas à la permanence pour la nuit. Mmh. Autrement, on vit de la Sorbonne.
Oui. Autrement.
Comment ça, on vit?
Ah oui, de la Sorbonne complètement pour la manie.
Je dis à votre fils de téléphoner quand il sera rentré. Enfin,
il y a vachement de monde à Saint-Michel.
Il y a vachement de monde à Saint-Michel.
C'est pas important, il est en vie. Il y a un quart d'heure, il était dans ce bureau. Oui, mais vous en faites pas, la TSF en plus.
Oui, tu penses.
Il veut qu'ils sont tous achetés là-bas.
À la TSF, on me dit de vous dire qu'ils sont tous des vendus.
Non, tous achetés.
Mais bientôt nous l'aurons la TSF.
Mais bientôt nous l'aurons.
Il y a juste RTL qui est pas mal.
Cette fausse merde, on va faire radio sensible.
Depuis une semaine, c'est pas clé.
Ça y est, moi, c'est plus
que ça. Depuis une semaine, il sera avec nous, alors ça va.
Mais non. Taire un peu, s'il vous plaît.
Elle pleut.
Elle est vachement bien. Oui, allô.
C'est papa.
C'est le grand-père, la grand-mère.
Mais nous, on n'utilise pas de drapeau tricolore. On utilise un drapeau rouge.
Non, noir. Noir. Pas rouge.
Rouge.
Noir.
Mais on s'en rend bien compte, vous savez.
Dis-lui que tous nos parents ont tous appelé successivement.
Pardon ?
Dis-lui que tous nos parents ont appelé successivement.
Oui, on fera attention. Mais oui, d'accord. Bien.
Et donc, ils ont pas rappelé.
Oui, madame. Sans... Au revoir, madame. Bon courage.
Je n'étais qu'un simple ouvrier dans la chaussure. Je gagnais de quoi payer mon loyer et ma voiture. Je travaillais dans la succursale d'un grand trust international. Et comme je n'étais pas trop bête, j'espérais qu'avec les années, je finirais chef d'un atelier. Je faisais des projets dans ma tête. Dans ce paradis helvétique, vive l'amour et la musique. Je vivais tranquille et confiant au milieu d'un monde brûlant. De vous, monsieur le directeur, les ouvrières disaient que vous aviez du cœur et des manières. Avec les garçons et les filles, on faisait partie de la famille, nous disiez-vous en souriant. Même qu'à votre anniversaire, vous nous avez payé un verre, c'était il y a bien longtemps. Dans ce paradis helvétique, vive l'amour et la musique. Vous avez dansé avec nous, j'ai encore des photos chez nous. Un jour vous avez déclaré, la conjoncture est telle qu'il faudra vous serrer tous la ceinture. Vous avez fait ce qu'on appelle des compressions de personnel. Fini le temps du bon apôtre. Et froidement vous avez mis ceux que vous nommiez vos amis à la porte l'un après l'autre. Dans ce paradis helvétique, vive l'amour et la musique. On a crié tant qu'on a pu, et l'écho nous a répondu. Je ne suis qu'un simple ouvrier, sans importance, pour ceux qui tiennent les leviers de la finance. Voilà ce que votre mépris, votre morgue m'auront appris. Je suis de ceux qui ont bon dos, que l'on déplace et qu'on renvoie au pays où l'argent est roi, mais ne vous y fiez pas trop. Un jour ou l'autre, c'est physique, vive l'amour et la musique. À jouer avec ces compressions, vous provoquerez des explosions, vous provoquerez des explosions.
folie comme seule loi. Il faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineux, la solution à cœur. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine, me faire la guillotine. C'est ça la médecine.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Et bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Du groupe d'Ivry, du groupe Libertaire.
Groupe Libertaire d'Ivry.
Oui. Et de l'émission lundi matin.
On peut peut-être rappeler en préambule qu'on a un rendez-vous commun dans pas très longtemps, Denis et la librairie Publico.
Oui, je te laisse l'annoncer.
Ah oui, il fait son faux modeste. Donc Denis viendra présenter l'émission L'Entonnoir le dimanche 22 février, donc c'est dans pas très longtemps, à la librairie Publico. L'adresse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 145 rue Amelot, métro République, Oberkampf, Fille du Calvaire. Et ce sera le dimanche 22 février. L'accueil est à partir de 15h, la projection du film Cabale de Clive Barker avec comme questionnement qui sont les monstres, oui. Puisque le film présente des monstres qui se cachent sous un cimetière, qui sont présentés comme beaucoup plus humains que les humains, qui sont des flics, des fachos et un psychiatre qui, on va dire, est un peu spécial, qui en plus est joué par le cinéaste David Cronenberg, qui est également, comme Clive Barker, extrêmement hostile à la psychiatrie. Et donc après, Denis, tu présenteras l'émission L'Entonnoir, et après, il y aura une discussion, ce ne sera pas une conférence, hein, où
non,
tu répondras aux questions, ce sera vraiment une discussion.
Voilà, une discussion, bon...
Avec toi, si, voilà.
Oui. On présentera l'émission, pourquoi, qu'est-ce que c'est, etc.
Voilà, voilà.
Eh bien,
et
merci.
L'entrée est libre, hein.
Alors, on commence aujourd'hui. D'abord, on rappelle qu'on va lire quelques phrases de Les Brutes en blanc de Martin Winkler, qui a exercé la médecine et qui met au jour les nombreux dérapages de la profession médicale face aux patients. Donc, une position... Donc un peu à contre-courant, puisque c'est un peu l'omerta qui stagne dans ces milieux-là. Et donc on verra comment rendent compte aussi les étudiants en médecine. Auparavant, une petite revue de presse. Et avec une brève de France Bleu, Gentilly, les pratiques de la Fondation Vallée, hôpital pédopsychiatrique de Gentilly, remises en cause. Alors, c'est un article du 3 février 2026. Le ministre de la Santé, Stéphanie Rist, la ministre, a demandé ce lundi à Dominique Simoneau, la contrôleuse des libertés, de se pencher sur d'éventuelles atteintes aux droits fondamentaux des parents à la Fondation Vallée, un hôpital pédopsychiatrique de Gentilly. Des doutes sur les pratiques de la Fondation Vallée, je cite, « des faits et des dysfonctionnements graves y ont été signalés et sont susceptibles de constituer des atteintes aux droits fondamentaux des personnes privées de liberté », selon une lettre du 2 février de Stéphanie Rist, ministre de la Santé, à Dominique Simoneau, contrôleuse des libertés, évoquée lundi par Le Monde, et que l'AFP, alors c'est lundi, pas celui qui vient de se passer, mais celui d'avant, et que l'AFP a pu consulter. De nombreux signalements sont effectués, notamment pour recours abusif et non réglementaire à la mise en chambre d'isolement, des enfermements en chambre de la nuit, dans une ambiance générale qualifiée d'asilaire, ou encore des durées d'hospitalisation complètes, excessives et non pertinentes sur le plan médical, selon la lettre de la ministre. Dans son courrier, Stéphane Iris demande à Dominique Simoneau d'examiner cette situation et éventuellement d'envisager un contrôle de cet établissement d'environ 70 lits, si cela est nécessaire. La ministre de la Santé rappelle également dans son courrier que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a de son côté lancé une mission d'inspection inopinée en décembre, dont les conclusions sont en cours de finalisation, je cite. Les restrictions de liberté pour des mineurs doivent relever d'ultra-exceptions. Étienne Pau, délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. L'hebdomadaire L'Express a publié la semaine dernière une enquête décrivant le désenfermement d'enfants et des prises en charge non conformes aux bonnes pratiques jusqu'à la fin de 2024, concernant en particulier des enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. Dans une interview à l'hebdomadaire la semaine dernière, le délégué interministériel pour ces troubles, Étienne Pau, avait annoncé la prochaine saisine de Dominique Simoneau. Les restrictions de liberté pour des mineurs doivent relever d'ultra-exceptions documentées et en aucun cas de pratiques courantes, soulignait-il. Le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, TND, ajoutait également qu'il y a un vrai sujet sur la formation des professionnels à la gestion des troubles du comportement. L'alerte donnée en décembre pour les enfants admis en soins psychiatriques, la contrôleuse des libertés avait déjà tiré la sonnette d'alarme en décembre sur la situation des 52 000 enfants de 4 à 17 ans admis en soins psychiatriques. Dans un avis publié au journal officiel, elle estimait notamment que leur prise en charge actuelle entraîne de nombreuses et graves atteintes à leurs droits fondamentaux. Les pouvoirs publics devraient notamment, selon elle, interdire expressément l'isolement et la contention des mineurs et donner aux établissements les moyens d'offrir aux enfants une prise en charge adaptée à leurs besoins médicaux et éducatifs particuliers. Fin de cet article. Alors, titre de séjour, oui, la France ouvre la porte à une nouvelle catégorie. Article de Belaïde Ousmani, là c'est dans Observe Algérie. Bon, j'ai trouvé ça dans un journal algérien. Le Conseil d'État a pris début février une décision importante concernant l'accès au titre de séjour pour soins. Cette décision permet à de nouveaux réfugiés, déjà protégés dans un autre pays de l'Union européenne, de demander un titre de séjour en France, ce qui modifie l'interprétation de la législation en vigueur. Avant cette décision, les réfugiés déjà protégés dans un autre pays de l'UE ne pouvaient pas bénéficier d'un titre de séjour pour soins en France. Les autorités françaises estimaient que les systèmes de santé européens étaient similaires et qu'ils ne justifiaient pas un titre de séjour supplémentaire. Cependant, un cas spécifique a conduit à une réévaluation de cette position.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà protégé ? Ça veut dire qu'ils ont...
Ils sont sous protection internationale, ils ont un statut de réfugié en fait.
Ah, il faut qu'ils aient déjà un statut de réfugié.
Oui, c'est ça.
Tu peux pas rabouler comme ça en disant bonjour, je viens pour me faire soigner en France.
Non, c'est d'accord. Pas... Voilà, déjà il y a ça.
Ça m'étonne aussi.
Alors, et puis en plus, là, ce qui est dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que... qu'ils disent qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'un titre de séjour pour soins en France, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'est une loi qui remonte à, je crois, 1997, que ce principe de titre de séjour pour soins existait déjà en 1997. Mais y avait une sorte de laisser-aller du genre, bon, ben. Qu'ils aillent se faire soigner dans le pays d'où ils viennent ou d'où ils ont été accueillis en premier. Quoi, dans
le cas je vois peut-être le mal partout, je me demande s'il n'y a pas aussi dans cet effet d'annonce, parce qu'on a une impression comme ça, hein, quand tout d'un coup tu fais une annonce de quelque chose qui en réalité existe déjà, tu te demandes dans quelle mesure la question, c'est pas aussi une façon de mettre en avant l'idée que éventuellement des migrants fous furieux, si on ferme pas la porte, débouleraient dans les rues un couteau à la main. Enfin, est-ce que,
oui,
parce
une sorte
que
de...
il me semble être tombé comme ça dans des trucs de médias mainstream sur des craintes, n'est-ce pas,
oui.
De ce genre exprimées par rapport à cette prétendue nouvelle loi.
Alors. Je vais d'abord dire l'événement qui a fait que, qui a eu déjà que c'est apparu dans la presse de cette manière-là, c'est qu'il y a eu une jurisprudence qui est apparue et qui a facilité la possibilité de soins pour les réfugiés.
Elle datait de quand, cette jurisprudence ?
Eh bien, de très pas longtemps, de quelques jours.
Ah d'accord, donc en fait, oui, c'est quelque chose de nouveau.
Voilà, c'est quelque chose, arrivé. Un événement nouveau. Oui, oui. Ouais. Alors, un ressortissant congolais reconnu comme réfugié en Grèce est arrivé en France pour demander un titre de séjour pour soins en raison de troubles psychiques graves. Sa demande avait été rejetée, mais après une analyse de la Cour administrative d'appel, il a été décidé de prendre en compte les particularités du système de santé grec. Finalement, le Conseil d'État a validé cette approche et a demandé une nouvelle évaluation des demandes de titres de séjour pour soins en prenant en considération les différences entre les systèmes de santé européens. Désormais, les préfectures devront évaluer si les soins disponibles dans le pays d'asile sont effectivement comparables à ceux qui peuvent être fournis en France. Si les soins en question sont jugés insuffisants ou non équivalents, le demandeur pourra obtenir un titre de séjour pour soins. Voilà. Alors ça, c'est ça a donc effectivement déclenché des commentaires. Par exemple, on peut lire dans le journal du dimanche. Immigration. Le Conseil d'État facilite l'accueil de réfugiés déjà pris en charge dans d'autres pays de l'UE. D'après les informations du Point, la haute juridiction a ouvert la voie à l'accès à un titre de séjour en France pour un réfugié déjà soigné en Grèce. Une jurisprudence qui interroge, alors que le nombre de visas délivrés dans l'Hexagone a atteint des records en 2025. Voilà. Donc,
à part ça, c'est vrai que c'est des questions purement pratiques, mais est-ce qu'il s'explique pour quelles raisons quelqu'un qui finalement a priori ne travaille pas et doit être, je suppose, a peut-être un statut déjà de handicapé en Grèce, pourquoi il tient à venir en France se faire soigner s'il est déjà soigné ailleurs, j'ai pas compris.
Ah bah voilà, on va en avoir un peu l'explication aussi. Alors, il est précisé que l'homme en question est arrivé en Grèce et y a obtenu un statut de réfugié. C'est donc à Athènes, dit l'article du journal, qu'incombe sa prise en charge, et non pas en France. Souffrant d'un stress post-traumatique associé à un état dépressif sévère avec des risques suicidaires, il se rend en France et demande un titre de séjour afin de se faire prescrire des soins comme le prévoit le droit français pour les personnes en situation irrégulière atteintes de graves maladies. Alors eux, ils disent en situation irrégulière, mais justement...
C'est un peu ambigu, ça, je trouve, je comprends pas.
Ils sont pas vraiment en situation irrégulière, en fait. Si l'interruption de leur traitement met leur vie en danger. L'individu reçoit ainsi un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi par un praticien. Alors, pourquoi ? Au mois de mai 2023, la préfecture de Gironde refuse de lui délivrer un visa et lui impose une obligation de quitter le territoire français, OQTF. Au prétexte que la Grèce est capable de lui prodiguer les mêmes soins qu'en France. En janvier 2025, cet arrêté est débouté par la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui appelle le préfet à examiner de nouveau la demande. Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, saisit le Conseil d'État. La décision de ce 2 février est toutefois simple, limpide. L'appartenance de la Grèce à l'Union européenne ne signifie pas forcément que le pays est en mesure de fournir un traitement approprié aux réfugiés. Comme le précise la haute juridiction, l'homme restera en France et sa situation sera réexaminée afin qu'il puisse obtenir un titre de séjour. De plus, l'État versera 3000 euros de frais de justice. Alors oui, c'est-à-dire que si on estime que le traitement dans le pays d'où il a été réfugié, reconnu réfugié, n'a pas un système de soins assez suffisant ou
oui, je suppose,
moderne,
parce que
quoi.
Les réfugiés pour raisons médicales. C'est pas genre, ouais, je suis bien soigné dans tel pays, mais finalement, j'aimerais mieux être en France. Je me rappelle pas que c'est jamais été pris en compte, ce type de raison, quoi. Donc, ouais. Je suis un petit peu surprise que ça le soit dans le cas des soins psychiatriques. Donc, c'est parce qu'il est déjà soigné, mais dans un pays où les soins sont beaucoup moins géniaux que... une déconvenue, mais bon...
Oui, c'est vrai qu'au niveau de la psychiatrie, c'est pas... en tout cas, c'est... C'est ce qui a fait que il a obtenu son titre de séjour. Voilà, donc l'article finit par citer qu'il y a une hausse de 11% de titres de séjour délivrés par rapport à l'an passé, en 2025, 11% de plus qu'en 2024, patati patata. Voilà, et donc maintenant on peut... oui, on peut commencer...
Peut-être une petite musique entre deux.
Voilà, on va écouter Courge.
Tiens. Donc le groupe du dessinateur anarcho-punk Matt Conture, qui en effet, en parlant d'avoir des misères avec les soins médicaux, fait des BD géniales qui sont en vente à Publico. Matt Conture, Courge.
Un morceau qui s'appelle « Je n'en veux plus ».
Que de nourrice les marges et leurs panneaux de médicaments et tous leurs prospectus d'avant. Je n'en veux pas, je n'en veux plus, je n'en veux pas, je n'en veux plus,
je n'en veux plus, je n'en veux pas,
je n'en veux pas, je n'en veux plus. C'est quand je prends le train à emmener. Just kidding.
Radio Libertaire 89.4 et sur Internet, vous pouvez entre autres retrouver l'entonnoir sur le site du groupe Libertaire d'Ivry, Anarchiste Info.
Voilà. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4. Et je m'approche du micro, du studio. Ouais. Martin Winkler, Les Brutons Blancs, chapitre...
Est-ce que tu as présenté Martin Winkler complètement?
Non.
Ça a été un peu bref. C'est-à-dire que tu pars toujours de l'idée, comme ça fait combien de chapitres, je crois, au moins 15, hein, qu'on a déjà fait du livre.
Oui.
Et pour préciser, donc, en réalité, on découvre ces chapitres en même temps que vous, donc c'est complètement improvisé.
Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1983 à 2008 en zone rurale et à l'hôpital. Il est l'auteur de La maladie de Saxe, Le cœur des femmes et En souvenir d'André. Il vit désormais au Canada où il participe à la formation des futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Et peut-être que maintenant il est à la retraite puisque le livre, il date...
2016, je crois.
De 2016, oui. Et donc nous lisons sur l'enseignement maltraitant, c'est donc les vicissitudes des étudiants en médecine dans un contexte assez délétère à vrai dire. La fabrique des Brutons Blancs, troisième partie donc du livre. En 2016, les blogs de médecins débutants ou chevronnés ne manquent pas. Ceux que tiennent des étudiants en médecine ne sont pas rares non plus, même si l'anonymat est de rigueur en ce qui les concerne. S'ils s'avisent de critiquer l'enseignement qu'on leur délivre, les sanctions sont immédiates.
C'est comme partout, je dirais, non. Je crois pas que des étudiants, quel que soit l'étage auquel ils sont, que ce soit collège, école primaire, fac... Et le droit de critiquer les enseignants, je veux dire.
Il n'empêche qu'ils reflètent très précisément, ces blogs d'étudiants, les dilemmes dans lesquels on les plonge. En témoigne cet extrait du blog Lithérapie. Son auteur raconte comment on l'a fait participer à une séance de sismothérapie, autrement dit d'électrochoc. Je suis entré dans une pièce de taille modeste où deux patients étaient allongés sur des lits branchés à une série de machines, un peu comme en réanimation. Deux infirmières encadraient l'un d'entre eux. L'interne se trouvait à sa tête, des électrodes posées sur les tempes du malade endormi. L'une des infirmières me lance « Je fais celle-là car on ne pensait pas que tu viendrais, mais ensuite je te laisse faire l'autre. » Je ris benoîtement et les salue, m'excuse. Et décline gentiment l'invitation à appuyer sur le bouton pour délivrer le choc au prochain patient. Les réactions sont diverses. La plus évidente est celle-ci. « Ah, mais si tu n'appuies pas sur le bouton, autant aller chercher quelqu'un pour te remplacer, car c'est le rôle de l'externe. Les infirmières ne veulent pas faire ça, en principe, c'est comme ça. Alors il va falloir s'y plier. » Elle a malheureusement écrasé le timide « Ah, enfin un externe qui n'est pas un mouton » murmuré par une infirmière.
Ça fait penser à l'expérience de Milgram. Tu sais, qu'on voyait entre autres dans iComicar, tu sais, où c'est pour voir si les gens appuient sur un bouton qui est en fait est fictif, puisque c'est un comédien, tu te rappelles. Mais moi, ma théorie, il y avait des gens qui disaient ça, c'est la preuve qu'il y a de l'obéissance à l'autorité, alors que j'y vois plutôt la preuve du sadisme des gens ils ont la possibilité, parce que c'est ça finalement, quand tu te dis, bon, personne ne viendra m'embêter, un peu comme, on va dire, ce qui se passe dans l'armée, quand tu dis je peux y aller et que du coup les sadiques se font plaisir. Moi c'était mon point de vue sur cette expérience, que c'était pas du tout pour moi tant une expérience d'obéissance, enfin qui prouvait le degré de soumission à l'autorité, mais qui prouvait plutôt le degré de sadisme dont tu pouvais faire preuve si tu en avais la possibilité. Voilà, c'est mon point de vue, mais ça fait vraiment penser à ça quand même.
Peut-être qu'on peut dire qu'il y a un peu des deux, je sais pas.
Moi c'est possible, c'est dur. C'est moi qui suis peut-être particulièrement cynique et qui vois vraiment l'humanité encore pire qu'elle est.
on m'a expliqué la technique de l'électroconvulsivothérapie. Le principe, très très vaguement. Quand j'ai demandé les effets éventuels à long terme, l'interne m'a répondu « Désolé, qu'il ne savait pas, qu'on lui demandait juste de faire des sismos et qu'ensuite il n'avait pas tellement d'avis sur la question. » Ni réellement le choix. Il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Je me voyais mal, déjà en retard, déjà remarqué par mon entrée rebelle, contacté en urgence un de mes collègues pour me faire remplacer parce que je ne me sentais absolument pas d'appuyer sur un bouton. Pourtant voilà, tout semblait presque irréel. L'anesthésiste qui, sans dire un mot, sans prévenir, injecte le produit dans les veines du patient. L'interne qui, machinalement, vérifie les électrodes disposées sur le patient et s'empare de ses manches. Une question part, l'air de rien, à propos d'un autre patient dont le nom est mentionné sans gêne, concernant un examen programmé en fin de semaine. Je suis ailleurs, je ne réalise qu'après ce qui, autrefois, m'aurait choqué. J'ai eu l'impression de ne pas être moi lorsque mon doigt s'est posé sur l'appareil, lorsqu'une longue sonnerie retentit, lorsque le patient commence à convulser et que nous comptons, glacial, les secondes d'agitation et que notre décompte s'achève au bruit du tracé qu'imprime la machine. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je deviens ? Un genre de robot, un être manipulable qui doit faire ce qui doit être fait sans chercher à comprendre pourquoi il le fait. Est-ce cela ? Le médecin moderne, un technicien qui agit et ne pense plus, quelqu'un qui oublie pourquoi il soigne en croyant qu'il soigne mieux, un automate apte à poser des diagnostics toujours plus précis, toujours plus pointilleux, mais qui, ne réfléchissant qu'en algorithme et en protocole, ne sait plus dire bonjour, se présenter, respecter l'autre, lui demander son accord. Sommes-nous étudiants ? Amenés à vivre aveuglément des ordres, alors même qu'ils vont à l'encontre de nos convictions, fragiles comme des brins d'herbe à peine sortis de terre, que l'on piétine à grand renfort d'autorité, de nécessité et de menace. Doit-on se plier, se conformer à cette vision de la médecine comme une prouesse technique, sans la moindre éthique ? Peut-on vraiment s'étonner que 67 à 80% des étudiants en médecine ne demandent pas ou plus le consentement à leurs patients ou patientes avant d'agir ? Peut-on vraiment s'étonner qu'ils violent le corps et l'âme de gens parfois sans le moindre scrupule ? Peut-on vraiment leur reprocher de devenir des machines alors même que la plupart de ceux qui leur enseignent la médecine ne rêvent justement que d'une armée de blouses blanches, sages comme tant de soldats bien dociles, que le souci de l'éthique ne puisse au grand jamais réveiller le feu de l'humanité qui sommeille en chacun de nous ? Alors voilà, c'est extrait du blog Futur médecin, ça se forme. Alors, c'est un blog extrait de Futur médecin, ça se forme ou ça se conforme, point d'interrogation. Extrait du blog Lithérapie, dont il donne le lien URL, mais...
C'est pas sûr que ça existe encore. Mais moi, je trouve que justement, pour revenir à l'idée de l'expérience de Milgram, bon, là, la façon dont il présente les choses, c'est je me soumets, mais c'est vraiment à mon corps descendant.
C'est le système qui fait
voilà,
que...
C'est le, et je veux dire, il a pas l'air d'imaginer, et c'est vrai que ça serait très compliqué. Je veux dire, exactement, je dirais que comme quand on était en classe, et qu'on nous donner des bêtes à torturer, enfin je veux dire à disséquer quoi, même des fois à tuer, enfin et que on n'aimait pas ça, mais c'est un truc pour, enfin tu dis c'est pour, est-ce que c'est pour t'apprendre la soumission, est-ce que c'est effectivement pour t'apprendre le sadisme, est-ce que c'est aussi un truc un petit peu, tu sais, comme dans Full Metal Jacket, tu sais, quand l'entraînement des Marines consiste à te rendre à la fois enragé et insensible, et la question qui était posée dans Icomicar quand on voyait l'expérience de Milgram, c'était une question de limite, et il faut bien le dire, la violence, c'est une question de... Enfin, la violence, le sadisme, effectivement, la compromission, c'est une question de limite. Jusqu'où, c'était la question qui était posée dans l'expérience qui était montrée dans Icomicar, jusqu'où tu peux aller avant que tu dises « Non mais attends, je vais pas faire ça ». Tu vois, c'est pas possible. Je peux pas. Enfin, là, j'ai dépassé ma limite. Et c'est ça, quand on dit t'es pur, toi, tu sais, par rapport au fait que tu vas avoir un jugement moral sur des gens que tu estimes être des salauds, toi, t'es pas pur. Non, mais c'est une question de limite. Il y a des choses que tu ferais pas. Enfin, je sais pas, hein, tu te dis, ok, je suis pas blanc-bleu, mais enfin, j'irai pas violer des bébés. Enfin, je te dis un truc extrême, mais tu te dis, même des serial killers peuvent avoir des limites, des choses qu'ils feraient pas. Il y en a qui peuvent pas regarder dans les yeux quelqu'un qui tue, qui peuvent tuer qu'à distance. Enfin, tu vois, c'est, et puis il y en a que, par exemple, même en temps de guerre, qui tirent en l'air, qui font tout ce qu'ils peuvent pour se tirer parce qu'ils peuvent pas, quoi, tu vois. Et t'en as d'autres comme mon père, par exemple, qui était militaire de carrière, qui au contraire ne niait pas prendre du plaisir à torturer et tuer des gens. Tu vois, donc dire que tu fais que obéir aux ordres, tu te fous un peu de la gueule du monde. Tu te dis, dans l'expérience, on voyait qu'il y avait une limite. Là, je sais pas trop. Je trouve que c'est déjà bien qu'ils critiquent, mais en même temps. J'ai pas le sentiment d'une, enfin, je sais pas comment tu le ressens, ce qu'il dit, mais j'ai pas le sentiment d'une révolte viscérale par rapport à l'idée de torturer des gens, parce que moi je le ressens comme ça, ce truc-là. D'ailleurs, je sais pas comment t'avais réagi quand quand on m'avait dit vous allez tuer ces grenouilles. J'avais dit, oh, n'est pas question, et j'avais tapé un scandale.
J'ai eu la chance d'y échapper.
Ah oui,
voilà. Mais par contre. Je me souviens, c'était au collège, la prof de sciences avait décrit comment une autre classe avait justement disséqué. Alors, elle disait comme ça, voilà, on prend une grenouille et puis on la maintient sur la planche, etc. On l'attache, tout ça. Et puis, après, on enfonce un objet derrière son crâne et puis on trifouille dans son cerveau, on lui détruit le cerveau. Et puis après, on branche des trucs électriques pour voir faire se contracter les muscles, etc. D'une manière tout à fait voilà comment on fait, quoi.
Oui, enfin, c'est un truc je sais pas pourquoi je fais la comparaison avec Full Metal Jacket et l'idée d'apprendre l'insensibilité. En effet, c'est un peu ça que ça veut dire. Je vois le fait d'apprendre à obéir, mais pour obéir, enfin, c'est la poule et l'œuf, pour obéir il faut se rendre soi-même insensible. Enfin, en classe, quand on te dit vas-y, torture cette bête, ça veut dire toi aussi, apprends au nom de l'obéissance, au nom de c'est comme ça, et aussi de faire ça dans un cadre institutionnel, c'est quelque chose pour t'apprendre à devenir au minimum insensible. Et j'ai bien peur qu'il y ait des gens à qui ça, dont ça encourage, et non pas ça apprend le sadisme, ça s'apprend pas, mais dont ça encourage le sadisme comme à l'armée. Comme à l'armée, tu peux te dire, en effet, comme disait mon père à mon oncle, qui était juste tueur, mais officieux, on va dire, que si, comme lui, il aimait bien tuer et torturer des gens, il ferait mieux de s'embaucher dans l'armée, au lieu de se retrouver en tôle, il aurait des médailles. Enfin, et effectivement, tout ce côté, tout ce décorum un peu officiel, je veux bien qu'il y ait des gens qui fassent ça par soumission, par passivité, mais que ce soit à l'armée ou dans le cas de la médecine, j'ai bien peur qu'il y ait des gens dont ça encourage en effet le sadisme, parce que je suis sans doute pas la seule qui a ressenti quelque chose de cet ordre-là chez des médecins, pas seulement de une soumission, c'est comme ça, etc. Mais un certain plaisir à la domination et même à la violence, on va dire.
Là justement, eh bien, le paragraphe suivant fait référence à l'expérience de Milgram, justement.
Tiens.
Alors, on y va. En soumission à l'autorité, cette description évoque furieusement la redoutable expérience de Milgram. Pour les lecteurs qui n'en sont pas familiers, en voici le résumé. En 1961, Stanley Milgram mit au point une expérimentation de psychologie comportementale sur la soumission à l'autorité. On demanda à des volontaires d'administrer à des sujets installés dans une pièce vitrée des chocs électriques d'intensité croissante lorsqu'ils donnaient de mauvaises réponses à un questionnaire. Le tout sous la supervision d'un chercheur en blouse blanche. En réalité, les sujets étaient des acteurs qui faisaient semblant de recevoir des chocs. Ce qu'on étudiait, c'était la docilité des volontaires à obéir aux ordres et le moment où ils refuseraient de presser sur le bouton. Quand ils faisaient mine d'arrêter, l'homme en blouse blanche les invitait fortement à poursuivre. Sur les 40 participants de la première expérience, 26 allèrent jusqu'à donner le choc maximum. Milgram en conclut que sous la pression de l'autorité, beaucoup d'individus sont prêts à commettre des gestes discutables.
C'est pour ça que je fais cette remarque. Je nie pas qu'il puisse y avoir des gens que c'est par soumission, mais comme à la guerre, je dirais, il y a des gens dont ils disent je peux y aller, parce que c'est ce que dit aussi le scientifique, allez-y, je prends ça sur moi. Bah, tu dis, il prend ça sur lui, je vais me lâcher. Et si tu veux, je trouve que ce soit en contexte de guerre ou dans un contexte médical, pour le truc précédent, puisque, et même dans le cadre d'une expérience, je pense que ce qui fait la différence, c'est pas seulement le degré de soumission, c'est le degré de méchanceté et de sadisme et jusqu'où tu peux aller, parce que même il y a quand même des nuances dans le sadisme des gens. Il y a des gens qui, même en contexte de guerre, il y a des choses qu'ils feraient pas. Enfin, tu vois, par exemple, à ma connaissance, mon père a jamais violé, mais il y en a qui en profitent et dire eh, c'est parce que on m'a dit que je pouvais le faire. Ouais, pas que, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est un peu ça aussi le problème de cette façon de présenter cette expérience. C'est un peu facile de dire c'est parce que on m'a dit de le faire. C'est pas seulement parce qu'on c'est parce qu'on t'a dit de le faire, mais c'est aussi parce qu'on t'a dit que tu pouvais le faire. Et le fait est qu'un médecin, par exemple, ou un psychiatre, il a la bride sur le coup. Enfin, franchement, il est dans un contexte où, enfin, comme tous les abus de pouvoir, si tu veux, t'en as des pires que d'autres, des autoritaires. Il y en a des pires que d'autres, qui sont plus sadiques et plus méchants que d'autres, qui peuvent aller très très loin. Je sais pas, si tu prends des trucs extrêmes, on va pas dire que c'est, enfin, personne leur dit de faire certaines choses à tous les médecins qui sont décrits. Enfin, si tu prends un exemple extrême, tu prends le Squarnenec qui violait des enfants quand ils étaient anesthésiés. C'est pas parce qu'on lui a dit de le faire, hein, tu vois, mais en revanche, tant que je gagne, je joue. Enfin, je veux dire, ils en ont on peut pas dire le contraire, c'est une situation de pouvoir, où tu as la possibilité d'imposer ta loi.
Oui.
Et même dans le cas qui est décrit par le blogueur, là, par celui à qui on a dit de faire ça, oui. Ben, moi, je crois, enfin, on voyait dans l'expérience de 1000 grammes que tout le monde ne s'arrêtait pas au même moment. Ce qui signifie bien qu'il y a un moment où est-ce que ta limite, c'est la limite de ta soumission ou est-ce que c'est la limite de ton sadisme ? Tu dis un peu des deux, il y a des fois où ça peut être beaucoup, beaucoup, le fait de dire, tiens, ben, moi qui aime bien, je vais me régaler, moi qui aime bien faire du mal aux gens, je vais pouvoir me lécher les babines, là, je vais y aller. Je vais faire du mal à quelqu'un et il m'arrivera rien puisqu'il y a un mec qui m'a dit que je pouvais y aller. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si tu connais aussi, on avait projeté ça d'ailleurs, un film qui s'appelle L'Expérience, toujours ma contre-culture.
Oui.
Et tout. Et d'ailleurs, l'émission Ras les murs avait aussi projeté ce film, qui est à la fois un film de fiction, mais qui serait basé sur une expérience réelle, et où on voyait que des cobayes, des gens qui étaient donc payés pour participer à cette expérience, et qui donc, a priori, n'était pas parti pour faire ce qui s'est passé ensuite. Dans le film, pour de vrai, ils se sont arrêtés bien avant. Parce que ça déraillait tellement que les scientifiques qui faisaient l'expérience, ça dégénérait complètement, quoi. Et l'idée, c'était que de faire semblant que c'était une prison, mais avec vraiment les gens allaient être enfermés, et que complètement en tirant au sort, il y en avait qui étaient les gardiens de prison et d'autres qui faisaient les prisonniers.
Mais les rôles étaient distribués.
Les rôles étaient distribués, mais c'est pas eux qui choisissaient.
D'accord.
Tu vois. Mais en revanche, dès qu'il y en avait, dès qu'ils avaient un uniforme, il y en avait beaucoup qui se lâchaient vraiment. Enfin, mais.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, ils jouent un peu comme s'ils étaient au théâtre, comme s'ils étaient comédiens et tout ça.
Et puis que
après,
comme
ils se prennent au jeu, quoi.
Bah, dans la mesure où ils ont la possibilité, c'est-à-dire qu'on leur a dit. Vous vous lâchez, c'est vous qui voyez comment vous vous comportez. Et il y en a même, on voit dans le film, après, il paraît que ça déraillait, mais ils n'ont pas voulu dire jusqu'à quel point. Mais ça dépendait aussi, enfin, c'était quelque chose qui encourageait beaucoup les gens à se lâcher. C'est pas qu'on leur avait ordonné, par exemple, il y en a un qui fait une tentative de viol sur une des prisonnières. Il y en a qui deviennent. Enfin, qui font des abus de pouvoir, mais pas possible, sadiques, quoi, littéralement. On leur a pas dit de le faire, hein. Mais on leur a dit que s'ils le faisaient, il leur arriverait rien, Tu vois ce que je veux dire? Donc, je dirais pas que c'est un contrepoint à l'expérience de 1000 grammes, mais ça va un peu dans mon sens quand même, si tu veux, parce que ça montre que, d'ailleurs, dans la réalité, c'est, enfin, quand tu joues pas, c'est quand même un peu comme ça. Quand tu endosses des gens qui endossent un uniforme, mais sans l'avoir voulu, par exemple des conscrits. Enfin, je parle pas de, parce que quand t'es flic, c'est pas, c'est, ou même maton pour de vrai, c'est quelque chose que t'as choisi. Donc c'est un peu la poule et l'œuf. Si t'as choisi d'être maton ou flic, c'est que t'es déjà un connard à la base et un sadique. Mais en revanche, par exemple, quand tu vas à la guerre et qu'on te met un uniforme, les gens se comportent pas tous de la même manière. Et pourtant, ils savent qu'on leur a pas ordonné forcément de se lâcher. Mais que s'ils le font, il leur arrivera rien. Et donc, c'est quand même aussi des questions sur le pouvoir, mais des questions aussi sur quelque chose qui n'est pas que de l'ordre de la soumission. Et chez les médecins, puisque pour en revenir là, on leur demande pas non plus, ils en ont la possibilité d'abuser. Mais personne, il faut qu'ils assument que si jamais ils se comportent mal avec les patients, ils ont quand même une bonne part de responsabilité, pour pas dire totale presque, tu vois. Voilà, enfin, c'est mon avis. Hein.
Eh bien.
Par rapport à l'expérience de 1000 grammes.
On a le temps encore, 15 minutes, pour en lire encore une petite partie.
Ouais, vas-y.
Donc, page 286 de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. En 2016, dans les facultés de médecine française, il est encore trop fréquent d'entendre des enseignants dire aux étudiants « Fais ce qu'on te dit de faire », sans que personne n'ose suggérer que le geste demandé est peut-être inacceptable. À ces ordres s'ajoutent deux corollaires qui achèvent de verrouiller l'étudiant. Le premier est « Si tu n'obéis pas à ton maître, tu n'apprendras jamais à faire les gestes qui comptent ». Le second est encore plus tordu. Si tu n'apprends pas les bons gestes et si tu ne les fais pas comme on te les apprend, les patients mourront. On voit immédiatement en quoi ce type d'injonction est contraire à l'éthique. Le patient n'y figure jamais comme un sujet. Le geste qui est imposé à l'étudiant vaut avant tout par sa valeur d'apprentissage autoritaire, de répétition mécanique, et non par sa valeur pour les patients à venir.
Mais quand tu dans le cas des électrochocs, est-ce qu'on peut vraiment avaler, quand on n'est pas complètement idiot, que le patient va mourir si on ne le torture pas quand même? Je trouve ça dingue.
Oui.
Non, c'est
oui,
vrai. Non,
mais oui, mais en plus, oui, c'est le cas. C'est-à-dire, on leur dit vraiment, mais oui, c'est un suicidaire, il est en dépression, il faut soigner sa dépression par l'électrochoc. Donc c'est vraiment théoriquement...
Admettons que les étudiants, dans certains cas, aient le bénéfice du doute. Mais je suis réservée.
Alors que, somme toute, ausculter un poumon n'est pas destiné à satisfaire le médecin par la découverte d'un bruit suspect, mais à vérifier si le patient a une raison d'être essoufflé. On voit aussi ce que ces injonctions ont de pervers. La non-conformité aux ordres imposés par le maître serait mortelle pour le patient. Comment un étudiant pourrait-il s'élever contre l'autorité censée lui enseigner ce qui est vrai et bon? Toute proportion gardée, un enseignement de ce type, par lequel beaucoup d'enseignants ne font que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes subi 20 ans plus tôt, est beaucoup plus comparable à un dressage qu'à une éducation. Et les enseignants le dispensent en même temps qu'ils expérimentent.
Ça, c'est un truc qui est quand même spécifique pour faire la différence avec l'expérience de 1000 grammes.
Oui.
C'est que là, en effet, l'argument, l'électrochoc va vraiment guérir. Enfin bon, et puis que t'avales, ça tout rond. Admettons, en revanche, dans l'expérience de 1000 grammes, l'idée, c'est que c'est juste une expérience celui qui est testé, même si en vrai il souffre pas, on n'a jamais dit qu'il était malade, on dit juste que c'est pour voir comment il réagit. Il faut qu'il apprenne. Est-ce que ça marche pour qu'il apprenne mieux? C'est ça le pitch, en fait. On dit à celui qui est testé pour de vrai, on lui dit c'est une expérience qui consiste à voir dans quelle mesure les électrochocs aide l'apprentissage.
Oui.
Il a jamais été question, enfin, t'as même pas cette excuse pour celui qui appuie sur le bouton de dire ça va être pour lui sauver la vie. Tu sais bien ne sert à rien. Oui. Donc, moi, tu vas pas venir me raconter que c'est pas des sadiques. Voilà.
Voilà. Alors, un petit morceau que j'avais pas lu tout à l'heure. C'était sur l'expérience de Milgram, c'est une phrase. L'expérience de Milgram a été de nombreuses fois commentée et critiquée. Une étude publiée dans le British Journal of Psychology en 2014 conclut à quelque chose de plus sinistre encore. Pour ses auteurs, les participants de l'expérience les plus actifs ne le furent pas par docilité, mais par enthousiasme.
Ah, tu vois ?
Attends, oui, mais... en pensant qu'ils agissaient dans l'intérêt collectif et okay. parce que le chercheur en blouse blanche leur avait présenté leurs actions comme bonnes pour la science.
Oui. Voilà, voilà. Mais c'est marrant parce qu'il pourrait, au moins même si j'ai pas raison, oui. c'est quand même une possibilité. Ben, non, c'est bizarre que personne ne l'évoque.
C'est vrai, non, mais en plus, les exemples qui ont été cités dans ce livre, il y a des exemples, mais en fait, on ne voit pas autre chose que ça, que du sadisme.
Chez des médecins, de toute façon, je crois qu'on a tous été confrontés à des médecins dont on se disait que, d'accord, c'est toi qui es la référence de la santé mentale, mais moi, je ne sais pas, le psychiatre, quand j'avais 15 ans que j'ai eu, je voyais bien que qu'il était carrément chelou, quoi. Et c'est quelque chose que tu peux pas imaginer parce que c'est trop. Imaginer qu'un médecin ou un psychiatre puisse en effet être un gros salopard, parce que je ne vais même pas faire de diagnostic sur le sadisme ou quoi, mais c'est un gros salaud qui prend son pied, c'est peut-être la définition de sadisme, qui prend son pied finalement à dominer et même voire à faire du mal. Tu vois, ça veut dire que ça excite finalement de se dire exactement comme en effet quand mon père avouait que c'était par sadisme qu'il était militaire de carrière, c'était vachement franc, mais il n'y a pas beaucoup de militaires qui avancent ça comme raison. Mm-hmm. Mais pourtant.
Oui. Oui, bon, puis voilà, les abus sexuels de gynécologues ou des choses comme ça, c'est pas pour la science.
Non, puis c'est pas non plus parce qu'on leur a donné l'ordre, connaissance, ou qu'on leur a appris ça, ou on leur a quand même pas appris, des médecins leur ont quand même pas appris qu'il fallait faire ça. Je crois pas, faut pas exagérer. Donc voilà, ils ont une part de responsabilité individuelle, je pense qu'on peut le dire comme ça.
Ouais. Alors, des patients cobayes, là on... l'attribution de la triple autorité soins-recherche-enseignement au chef de service de CHU par la réforme Debré de 1958 a eu pour conséquence que beaucoup d'entre eux se sont voués à ce qui valorise et rapporte le plus, à savoir la recherche. Ou plus être, pour être plus précis, l'expérimentation sur les patients. Ainsi, jusque dans les années 70, il était de coutume que les psychiatres testent des molécules sur les personnes hospitalisées, pour en identifier les effets. Citons un passage d'un article publié dans La Recherche. Donc, je cite un passage, ouais, de ce passage, donc, cité par Jean-Noël Missa dans Le hasard ferment des psychotropes, La Recherche, 1er avril 2007. Synthétisé en 1950 dans les laboratoires de Rhône-Poulenc, le premier des neuroleptiques, la chlorpromazine, aurait pu rester dans les tiroirs de la firme si Henri Laborie n'était passé par là. Il travaillait à l'époque comme médecin militaire à l'hôpital de Bizerte en Tunisie et cherchait comment améliorer les conditions d'intervention chirurgicale sur les soldats en état de choc. L'idée lui vint alors d'utiliser des substances susceptibles de bloquer les réactions incontrôlables de leur système nerveux, des antihistaminiques de la famille des phénothiazines que lui procurait Rhône-Poulenc. Ayant remarqué que l'une de ces molécules, la chlorpromazine, provoquait un désintérêt du malade pour ce qui se passe autour de lui, Henri Laborie encouragea des psychiatres à la tester sur des malades mentaux. C'est ainsi que Jean Delay, chef du service de psychiatrie de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et son assistant Pierre Deniker mirent en évidence les effets bénéfiques du médicament sur l'agitation et les délires des malades mentaux.
Putain, t'es pas choqué ? Moi, je croyais qu'Henri Laborie, c'était quelqu'un de bien.
Hein ? Ah, moi, j'avais déjà lu des trucs sur lui qui étaient un peu calés dans ce sens-là.
D'accord.
Okay. Plongé dans une douce indifférence, il semble séparé de l'ambiance par une cloison invisible, notèrent Delay et Deniker en 1952. Fin donc de l'article, de l'extrait d'article de la recherche. En 1952, il faut le préciser, il n'existait pas de réglementation des essais thérapeutiques, pas de demande de consentement, pas de comité d'éthique. Le médecin décidait seul de ce qui est bon ou non pour le malade. En 1977, alors que j'étais étudiant, écrit Martin Winkler, dans un service de psychiatrie, le médecin-chef m'imposa, comme à tous les étudiants, une journée d'enregistrement et de tests. Il étudiait les effets du stress sur les contractions intestinales. L'expérimentation était indolore, on me posa quelques électrodes sur l'abdomen, on me fit passer des tests psychologiques enregistrés pendant que je mangeais, pendant que je lisais et pendant que je faisais la sieste. Mais on ne m'avait à aucun moment demandé mon accord. On m'avait cependant laissé entendre qu'en tant qu'étudiant, j'étais tenu de me prêter à cette petite fantaisie du chef de service. On ne m'avait pas expliqué non plus ce qu'il adviendrait des résultats, ni donné la moindre garantie de confidentialité quant aux renseignements glanés à mon sujet. Si l'expérimentateur avait décidé de glisser un médicament dans la compote ou la soupe qui me fut servie pour en étudier les effets sur mes contractions intestinales, je n'en ai rien su. Je ne sais pas s'il soumettait ses patientes, il s'agissait d'un service de psychiatrie pour femmes, aux mêmes tests ou à d'autres, je ne sais rien de plus. On s'est bien gardé de m'en dire trop. Donc des patients cobayes ou exposés comme du bétail. La même année, j'ai souffert d'une éruption très désagréable puisqu'elle était située à la partie supérieure de mes deux cuisses, au pli de l'aine. Je souffrais le martyr et parce que je ne voulais pas passer un temps fou à attendre une consultation chez un dermatologue, je m'adressais à la consultation publique de dermatologie du CHU. On me donna un rendez-vous rapide, le lendemain. Sans me dire qui allait me recevoir, on me fit attendre dans un box à deux portes. Quand la seconde porte s'ouvrit, on me fit entrer dans une salle assez sombre où siégeait derrière un bureau le professeur en chaire de dermatologie de l'hôpital. Il était entouré d'une demi-douzaine d'internes et d'étudiants debout autour de lui.
C'est marrant, j'ai raconté la même histoire. Il m'est arrivé la même chose, c'est pour la dermatologie aussi.
Ah oui.
Il y avait des étudiants comme ça qui étaient derrière moi. Et le médecin, comme c'était un truc qui était en haut des fesses, bah il montre mes fesses aux étudiants en leur disant de s'approcher. Ça fait quand même un peu bizarre d'entendre un... Enfin, puis sans me demander mon avis, évidemment. Hein. Mais j'ai vécu la même chose parce que effectivement, quand t'as pas de sous, dire que t'es traité comme du bétail, le mot est faible. Hein. Je confirme. Voilà.
Alors, oui, c'est... Alors... il était entouré d'une demi-douzaine d'internes. Ah oui, c'est... d'internes et d'étudiants. Debout autour de lui, le professeur ne se leva pas. Il ne leva même pas les yeux de la fiche, mais me demanda ce que j'avais. Je répondis en balbutiant que je pensais avoir une mycose des plis. Il me répondit « Montrez-nous ». Puis, comme je cherchais du regard à un coin où me déshabiller, « Allez, baissez votre pantalon et votre slip !» Impressionné, je m'exécutais sans réfléchir. Il fit alors signe à l'un des étudiants qui l'entourait. Le jeune homme s'approcha de moi, une lampe de poche à la main, se pencha, éclaira mon entrejambe, hocha la tête et, se tournant vers le bureau, dit « Oui, monsieur, c'est bien ça !» Le professeur fit signe aux autres étudiants qui, à tour de rôle, se passèrent la lampe et m'examinèrent, pour certaines, car il y avait des femmes, avec une certaine gêne. Le professeur ne leva pas le nez, il rédigea une ordonnance qu'il me fit porter par l'un de ses acolytes et me congédia.
Ouais, je confirme. J'avais même raconté d'ailleurs que c'était un truc, j'avais de l'eczéma, et que le médecin m'avait dit simplement corticoïde. Et quand j'avais dit, mais je vais pas encore prendre des corticoïdes, j'en ai déjà pris plein. En plus, je savais même moi que c'était bon pour, c'était pas bien pour les maladies chroniques, enfin pour l'eczéma chronique. C'était bien quand on avait seulement une fois. Et il m'a même pas écouté, il a dit corticoïdes, et puis il m'a jeté. Voilà. Et sinon, il m'est arrivé la même chose. Il n'y avait pas de lampe de poche, mais c'était pas loin. Mais en effet, on peut dire que quand même, la médecine à deux vitesses, quand t'as pas de sous et que tu te retrouves avec le ticket modérateur, enfin, ça s'appelle comme ça, enfin, avec la CMU ou quoi, ben, que tu vas vraiment avoir le service minimum, c'est comme dans tous les domaines. Quand t'as pas de fric, t'as toujours un service plus que minimum, hein, la bouffe, l'hôpital, les avocats, enfin, bon, tu vois, dans tous les domaines, t'auras vraiment le truc que la poubelle des autres a vomi, hein, c'est un peu ça, hein, quand même.
Voilà. Bah, on va peut-être s'arrêter là pour maintenant.
Pour maintenant.
On va rappeler qu'est-ce qui se passe dimanche 20,
Dimanche 22 février, donc c'est pas ce dimanche-là, c'est celui d'après.
Projection d'un film de Clive Barker intitulé Cabale.
Voilà, avec une histoire de monstres et tout, avec le sous-titre Qui sont les monstres. Et Denis viendra présenter l'émission L'Entonnoir, et après, on discutera tous ensemble. Voilà.
Voilà. Eh bien, ainsi se termine.
Donc c'est à Publico. Hein,
oui, à Publico, 145 rue Amelot.
Métro République Oberkampfi du Calvaire. Et l'entrée est libre, évidemment.
Voilà, c'était L'Entonnoir, à la semaine prochaine. Et on va enchaîner sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu ni maître. On va enchaîner avec Un Rayon de Soleil, émission de Radio Libertaire Méditerranée. Bonne écoute.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
La voix des clairons, où est-ce que nos soins n'appelaient pas mon oreille.
Bonjour à tous, bienvenue dans Rayon de Soleil, l'émission du sud de la France de Radio Liberté, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. 89.4 sur Paris et la région parisienne, aussi en DAB+, et puis sur internet partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. L'émission d'aujourd'hui va porter sur l'anarchisme, avec deux visions d'anarchisme qui sont complètement complémentaires et complètement intéressantes, puisque c'est des grands noms de l'anarchisme qui vont nous faire part de la manière dont ils envisagent ce système, cette manière de penser. Le premier, c'est Élisée Reclus, avec l'anarchie. Et le deuxième, ce sera Kropotkine avec le principe anarchiste. Voilà. Tout de suite, nous allons commencer avec Élisée Reclus avec l'anarchie.